Ryan, dont je vais vous parler, a grandi à Los Angeles, était fils de pasteur, mais il voulait savoir ce qu'il y avait dans le monde. Il était attiré par la musique, le rock'n'roll en particulier. Et donc, il est parti travailler dans la musique, dans l'industrie du skateboard aussi, et cela pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il y a trouvé? Ben, de l'argent. Il voyageait 9 mois par an, avec parfois des groupes de hip-hop ou de rock'n'roll parmi les plus prestigieux. Mais c'était cocaïne à gogo, tous les jours sans exception, alcool à gogo, des bringues, comme on dit ici dans la région, un peu partout dans le monde. Je vivais un espèce de rêve, mais rien qui satisfaisait mon âme. Et un jour, il s'est retrouvé au Costa Rica, et là, dit-il, il a pété les plombs pour la troisième fois. Et il s'est retrouvé dans sa chambre d'hôtel, et là il a dit: Jésus, si tu existes, révèle-toi à moi, prouve-moi que tu es réel. J'ai besoin que tu te montres dans ma vie. J'ai besoin que tu m'entendes et que tu me changes radicalement. Et là, il se souvient avoir pensé, il a dit: Mec, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une Bible ici, dans cette chambre? Parce qu'il avait l'habitude, hein, voyageant 9 mois par an, il avait l'habitude souvent de rencontrer une Bible Gédéon, hein, dans les chambres d'hôtel. Et effectivement, ce jour-là, ce soir-là, il y en avait une dans sa chambre. Alors, dit-il, ben, je l'ai volée, je l'ai fourrée dans mon sac à dos parce qu'il repartait. Mais il dit, le lendemain, j'ai repris l'avion pour retourner à Los Angeles et pendant les 6 heures de vol, eh bien, je n'ai pas arrêté de lire, de dévorer cette Bible à tel point que tous les membres de mon équipe, y compris le dealer qui me fournissait la cocaïne, me regardaient avec des yeux un peu bizarres. Mais il dit, je me souviens que quand j'ai atterri à Los Angeles, après avoir lu la parole de Dieu, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie. Gloire à Dieu. Et je me souviens avoir pensé, Dieu, je ne sais pas ce que tu veux faire de ma vie. Me voici, fais ce que tu veux de ma vie, que ta volonté soit faite. Ryan dit qu'il a fait une vraie rencontre, hein, avec Jésus-Christ, hein, qui a transformé sa vie. Et aujourd'hui, Ryan parcourt le monde, hein, pour partager Jésus parmi les collégiens, parmi les lycéens, dans le cadre d'une association chrétienne qui utilise justement ses talents, hein, à la fois musicaux et dans le skateboard, hein. Il fait de l'évangélisation. Et il dit tout ça au travers d'une Bible, hein, qui a été placée dans un hôtel. Et il dit, si je pouvais retrouver le gars qui a déposé cette Bible dans l'hôtel, je lui dirais simplement, c'est bien, fidèle serviteur, regarde un peu ce que tu as accompli. Moi, je dirais, il ferait mieux de dire, regarde un peu, fidèle serviteur, ce que Dieu a accompli par la puissance de sa parole, parce que tu as peut-être accepté, hein, de te mettre au service, hein, de ton Dieu. Oui, gloire à Dieu, hein, seul pour ce puissant témoignage qui nous montre une fois encore que la parole de notre Dieu, hein, ne retourne pas à lui sans effet. Qui nous montre aussi qu'avec le temps, hein, le pain qui a été jeté à la face des eaux, la semence qui a été semée, hein, eh bien, finit par produire des effets. Hein. Vous imaginez la souffrance pour Papa Pasteur, pendant 18 ans, hein, il a vu son fils dériver. Hein. Ça a mis le temps, mais Dieu est intervenu. Et une semence en plus, hein, aux effets multiplicateurs, vous voyez, puisque Ryan aujourd'hui, hein, eh bien, est dans un ministère, hein, qui sème à son tour, hein, et qui témoigne aux jeunes. Mais ce que Ryan a peut-être oublié de dire, hein, c'est que si les Gédéons, hein, une association que vous connaissez bien, hein, professionnels chrétiens avec leurs épouses, membres d'églises protestantes et évangéliques, hein, ont pu lui remettre un jour l'un des 91 millions de Nouveau Testament, hein, qu'il distribue dans 200 zones du monde chaque année, eh bien, c'est parce que quasiment, hein, depuis 1899, les débuts du ministère, eh bien, notre association a pu être soutenue, hein, par les églises locales. Nous ne sommes qu'un des prolongements missionnaires, hein, des églises locales. Et je sais que ce partenariat existe depuis longtemps, hein, entre le groupe de Dunkerque d'abord, puis de Lens, hein, et votre communauté. C'est pourquoi je dirais que c'est une joie, hein, pour moi d'être à nouveau parmi vous. Je crois que la dernière fois, pour parler du Gédéon, hein, je suis venu entre deux, mais c'était il y a 6 ans. hein, et de vous parler, pas tellement des Gédéons, hein, ce n'est pas intéressant, hein, mais ce que j'aime bien, c'est pouvoir vous rendre compte, hein, ce matin, hein, des fruits d'un partenariat qui existe entre notre groupe de Lens, hein, et votre Église. Et nous vous sommes très reconnaissants, hein, pour ce temps de parole que vous nous offrez, hein, chaque année. Je remercie Jean-Michel, Daniel, le conseil de l'Église. Et je vous remercie encore plus pour les prières fidèles. Lorsque nous avons des opérations sur le terrain, je vais en parler tout à l'heure, croyez-nous, nous le sentons, quand les églises prient pour nous. Merci aussi pour les membres très actifs, Jean-Michel les a cités, j'ai pu leur les citer, mais les membres très actifs que vous nous avez prêtés à notre groupe, ils nous font beaucoup de bien, et merci aussi parce que vous nous soutenez aussi sur le plan financier. Ce matin, je voudrais partir d'une petite anecdote provenant du travail dans le ministère des Gédéons. Je vous emmène en Argentine. Un vieil homme s'avançait en descendant dans la rue de ces villages de 20 000 habitants, mais interminables. C'est une longue rue, très très souvent. Et cet homme donc a arrêté le premier homme qu'il a rencontré. Il lui a dit « S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous me dire où je pourrais trouver le petit livre bleu ?» Et cet homme de lui répondre, « Mais quel petit livre vous me parlez, bon sang ? Je vous parle du petit livre bleu qui contient Jésus à l'intérieur. » Bien sûr, l'homme lui a répondu, « Bah, désolé, moi, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, je ne peux pas vous aider. » L'homme, tout en continuant à redescendre la rue, a posé inlassablement cette question, jusqu'au moment où il a abordé un homme qui, comme moi, avait un petit insigne, des membres de l'association des Gédéons, et il a reposé la même question. Alors, le Gédéon a plongé la main dans sa poche. Un bon Gédéon, normalement, doit toujours avoir un Nouveau Testament personnel dans sa poche. Et il lui a dit, mais c'est de ce livre-là, monsieur, que vous voulez me parler. Aussitôt, le visage de cet homme s'est illuminé. Il a dit, ben oui, c'est ça le petit livre qui contient Jésus à l'intérieur. Et le Gédéon l'a pris sur le bord du chemin, lui a présenté le plan du salut, l'a même invité à passer la nuit chez lui, mais cet homme, bien qu'âgé, a dit, ben non, écoutez, je ne peux pas. Je dois retourner dans mon village, dans la Pampa, et je ne serai pas rentré chez moi avant 7 jours. Vous avez bien compris, hein. Ce vieil homme avait marché pendant 7 jours pour obtenir un de ces petits livres qui contiennent Jésus. Moi, et je pense que vous êtes comme moi, moi je suis admiratif devant cet homme qui a marché 7 jours, alors qu'il y a parfois des lycéens qui déchirent notre petit Nouveau Testament. Je crois que pour vous, chrétiens, qui avez à cœur d'évangéliser votre agglomération, c'est une joie aussi de savoir qu'il existe encore des gens qui ont une telle soif de Dieu, qui sont tellement en recherche, que ce sont eux qui viennent vers nous et qui nous interpellent. Pourtant, vous avez vu que quand quelqu'un a une telle soif de Dieu, il a fallu cet outil, qui est la parole de Dieu. Il a fallu quelqu'un pour lui apporter la révélation de l'amour de Dieu. Il a fallu un ou plusieurs témoins. Alors, la bonne terre est là, c'est vrai. Il y a autour de nous plus de gens qu'on le pense, qui ont soif de Dieu et de sa parole. Mais, comme le disait un médecin chrétien qui avait accepté de placer le Nouveau Testament dans son cabinet médical, mais comment une terre, même bonne, produira-t-elle du fruit si elle n'est pas ensemencée ? Alors, la réponse à cette question, eh bien, nous allons la trouver dans un passage que vous connaissez, je pense, aussi bien que moi, dans Matthieu, au chapitre 14, à partir du verset 13, c'est le passage de la multiplication des pains. C'est pourquoi Julien va nous emmener là, au bord du lac de Tibériade. Matthieu 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Mais ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui dirent « Mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains, les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. La réponse à la question que je posais, comment produira-t-elle du fruit, cette bonne terre, si elle n'est pas ensemencée? Je crois que vous l'avez entendu, la bouche de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Mais, et vous allez le voir avec le slide qui suit, je crois que quand on lit ce passage de la multiplication des pains, je crois que se dégagent assez clairement deux types d'attitudes. Vous avez d'un côté des disciples qui voient en priorité les problèmes, les difficultés. C'est une attitude qui peut sembler, pourquoi pas, assez sage, assez rationnelle. Et une attitude des disciples qui nous ressemble tellement. À nous les Gédéons, à nous les chrétiens, et pour Daniel qui connaît bien les anglo-saxons, je dirais à nous les Français, qui sommes tellement défaitistes, pessimistes, négatifs vis-à-vis de beaucoup de choses. Et de l'autre côté, vous avez l'attitude de Jésus. On va parler un petit peu de ces deux attitudes. Comme nous, les disciples, je dirais qu'ils mesurent d'abord, donc, et avant tout, la faiblesse de leurs moyens. Ils établissent comme une liste de leurs incapacités un véritable catalogue. Regardez, ce n'est pas le bon lieu, Seigneur. Le lieu est désert. L'heure est avancée. Ce n'est pas le bon moment. Ils parlent de leurs insuffisances. Mais il n'y a pas assez, il n'y a rien à manger. 5 pains au mieux et 2 poissons. Une foule de 5 000 personnes, plus les femmes et les enfants. Seigneur, on n'y arrivera pas, même pour distribuer à cette foule. Tu te rends compte, on n'est que 12. Pour une foule pareille, qui ne voit pas le temps que ça va nous prendre. Peut-être aussi, chez ses disciples, y a-t-il une fatigue légitime. Ils ont passé, c'est le soir, il est tard, ils ont passé trop d'heures à écouter Jésus parler. Ils sont peut-être déçus, Jésus leur avait promis juste auparavant un temps de repos à l'écart, en compagnie de leur maître, et puis ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils n'ont peut-être pas ou plus envie de travailler ou de s'activer ce soir-là. Il ressemble à Gédéon aussi, qui se sentait si faible, si nul, le plus petit dans la maison de mon père, avec la famille la plus pauvre en Manassé. Un espèce de constat de faiblesse, d'impuissance. Alors la solution qui s'impose pour les disciples, la seule solution qu'ils trouvent, c'est une solution de facilité. Seigneur, renvoie la foule. On remet à plus tard. Ou à jamais, quand on remet à plus tard, vous le savez bien, il y a toujours des tas de bonnes raisons pour renvoyer la foule, pas témoigner, ne pas évangéliser. Comme nous, les disciples, mais aussi d'autres personnages bibliques, mesurent souvent les dangers extérieurs. Il y a comme des géants sur notre route, des problèmes. C'était le cas à l'époque de Gédéon, qui voyait les Madianites, qui craignait la maison de son propre père. C'était le cas avec David, qui était face au géant Goliath. Pour nous, je dirais que le temps de tous les dangers, c'est que nous vivons un temps peut-être de la mort de Dieu, qui nous oblige à être un peu sur la défensive, sur le plan de la défense de notre foi, de notre vie chrétienne. Il faut sauver d'abord, ainsi que notre famille. Bon, on a peut-être peur aussi du « quand dira-t-on » pour nous les Gédéons. Il y a eu des périodes récemment d'état d'urgence, on a pu se poser des questions, des géants qui se dressent sur notre route. Et puis, vous savez qu'avant l'épisode de Matthieu 14, il y a Matthieu 13, dans la Bible, c'est logique. Et Matthieu 13, c'est quoi? C'est la parabole du semeur. Et la parabole du semeur, les disciples l'ont entendu, donc juste avant. Mais on a l'impression que la parabole du semeur, ils n'ont compris qu'une chose. Il y a 4 terrains, Seigneur qui nous a parlé de 4 terrains différents. Mais bon, quand on regarde bien, c'est un peu décevant, parce que 3 fois sur 4, ça ne marche pas. Il y a 3 terrains sur 4 qui ne sont pas bons, ça ne prend pas. Alors, quel est le résultat? On sème, mais pas beaucoup de résultats. Un faible rendement. Et les disciples ont tendance à négliger cette petite semence. Ils méprisent cette semence, alors que Dieu nous dit, jette ton pain à la face des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Alors, quel contraste avec l'attitude de Jésus qui est si différente. Jésus, lui, je crois qu'il est tout aussi conscient des problèmes, hein, mais il voit d'abord les besoins. Qu'est-ce qu'il dit ? Il vit hein, une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Alors après, bah, il dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger, apportez-moi hein, ces 5 pains et 2 poissons, hein, mais tout est d'abord une question de vision. Et pour avoir cette vision, hein, la vision de ces foules qui se perdent, des besoins spirituels et matériels de ces foules, hein, des souffrances de l'humanité, hein, eh bien, Jésus, je crois que son ressort, c'est qu'il est ému de compassion. La raison de sa venue sur notre terre, la raison de son sacrifice, hein, ça a été son amour hein, pour chaque être humain. Et tant Jésus sait que c'est un temps de tous les dangers. S'il y a bien quelqu'un qui le sait, c'est lui. Il sait ce qui l'attend bientôt. Une mort infamante, dans les souffrances terribles, sur la croix du calvaire. Mais pour Jésus, ce temps d'aujourd'hui, c'est certes un temps des dangers, mais c'est aussi un temps de tous les possibles. On peut profiter des opportunités, il n'y a pas de temps à perdre. Et Jésus le dit clairement dans Jean 9, 4. Il faut que je fasse... donc de son vivant, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est un peu ce que Paul dit aussi dans Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et Jésus, il est capable, lui, de vaincre ces géants qui se dressent sur notre route, ces géants qui nous font peur. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, il sait évidemment que face à ce qui nous semble impossible, il y a un Dieu de l'impossible. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel ? Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu des promesses, et Jésus le sait. Et les gens qui agiront un petit peu en refusant de se soumettre aux problèmes, souvent, ils vont expérimenter aussi que nous avons un Dieu tout-puissant. Alors Dieu, qui n'a que faire de notre petite vision un peu étriquée, du catalogue de nos incapacités, il réagit souvent en nous interpellant. À Moïse, qu'y a-t-il dans ta main ? Une verge. À la veuve, qu'as-tu à la maison ? Une cruche d'huile. À David, qu'as-tu ? Sa fronde. Et c'est ainsi que David, au lieu de dire « Goliath, ben, il est trop grand pour moi », eh bien, David va plutôt se dire, mais c'est formidable ça, Seigneur. C'est vrai, il y a un danger là, Goliath, moi je ne fais pas le poids. Mais Goliath est tellement grand que, certes, bien le diable, si je le rate avec ma fronde, j'ai une cible magnifique. Il est grand, j'ai beaucoup plus de chances de l'atteindre là où il faut. Et pour Gédéon, ça a été pareil. Et Dieu se sert de ses disciples. Et il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et moi, je le réalise dans ma vie chrétienne, ma vie de Gédéon aussi. Je me dis, mais Seigneur, c'est merveilleux, je ne mérite rien, je suis incapable, je suis comme tous les autres. Et j'ai parfois peur. Mais quelle grâce, quel honneur tu me fais, quelle faveur non méritée que tu fais de bien vouloir te servir de quelqu'un comme moi. Et en plus, tu me fais des promesses. Va avec la force que tu as. Délivre Israël, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Jésus, je crois aussi qu'il n'interprète pas sa parabole du semeur de la même façon que les disciples. Il le montrera, justement, par l'épisode de la multiplication des pains. C'est un Dieu de multiplication. Et si on lit bien la parabole du semeur jusqu'au bout, eh bien, on va constater qu'à partir de rien, une petite semence, eh bien, les bons grains vont rapporter l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Et ça, c'est formidable. Dieu, à partir d'un petit pépin de pomme, nous aurons un pommier qui va produire des centaines de pommes qui feront à leur tour des milliers de pommiers. Donnez à Dieu vos pépins, vos petits pépins, faible potentiel, et il fera le reste. Et moi, ce qui me plaît, ce qui me confond dans ma vie chrétienne, au sein du ministère Gédéon, c'est de constater que Dieu, par sa grâce et sa bonté, veut bien servir de moi. Il m'invite sans cesse à dépasser ma faiblesse, ma petite vision étriquée, hein, pour contempler sa grandeur, pour adopter, oh, petit à petit, hein, sa vision, parce que c'est un Dieu de toute puissance. Moi, je parlais d'un Dieu multiplicateur. Un jour, un prof de maths, hein, Jean-Michel aurait pu le dire, hein, mieux que la multiplication. Hein, la multiplication, c'est jamais qu'une somme d'addition. Hein, il disait, il y a la puissance, le phénomène de puissance, hein, qui est, lui, hein, donc, une multiplication répétée d'un nombre avec lui-même. Hein, si on peut dire ça, c'est parce qu'on a vraiment, hein, un Dieu tout-puissant. Alors, c'est ce double thème, hein, de la parole de Dieu, hein, d'un Jésus qui voyait d'abord les besoins plus que les problèmes, mais ce thème aussi d'un Dieu qui répond, hein, parfois aux besoins les plus profonds des hommes et des femmes, que je voudrais développer ce matin en vous reparlant un petit peu, hein, maintenant du ministère Gédéon. Il y a des problèmes, hein, dans le ministère Gédéon, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous encombrer avec, avec nos soucis. Un premier frein possible, ça peut être la météo, pas aujourd'hui, hein, mais parfois, hein, et on voit souvent avec les chrétiens qui prient pour nous que le Seigneur est le maître de la météo. Je vais vous parler tout à l'heure d'une grosse opération, hein, qu'on a faite en octobre dernier, c'est l'automne, hein, il ne fait pas toujours beau, mois d'octobre, hein, et pendant une semaine, hein, on devait distribuer, hein, chaque jour, hein, donc, dans le sud de l'Aisne et dans le département de l'Oise. Dans bien des lycées, il n'y avait pas le moindre abri, hein, pour, si jamais il pleuvait, pour abriter nos cartons et nous abriter nous-mêmes. Eh bien, les chrétiens ont prié pour nous, hein, beaucoup d'églises, on le sait. Hein, ben, vous savez, quand il a commencé à pleuvoir à verse, c'est-à-dire que c'était vraiment handicapant, le vendredi soir à 18h10, depuis 10 minutes, nous avions terminé, hein, toutes nos équipes avaient terminé toute leur distribution. Hein, gloire à Dieu. Autre signe de faiblesse que nous ressentons parfois, ben c'est pas assez de temps, hein, pour couvrir tous nos secteurs, hein, pas assez d'épouses disponibles pour couvrir des secteurs d'activité bien précis, comme les cabinets médicaux, hein, nous sommes pas assez nombreux pour certaines distributions, hein, comme les universités. Hein. Oui, ça peut arriver, mais le Seigneur répond. À Lens, Virginie vous en a peut-être déjà parlé l'an passé, il a suffi, fruit de la prière, d'avoir une épouse Gédéon en plus pour faire équipe avec Virginie. Hein, et c'est tout un cycle de distribution dans les cabinets médicaux, hein, à Hénin, à Montigny, bientôt à Arnes, hein, qui s'est enclenché. Au niveau de notre opération Semaille Abondante, Julien, si tu veux bien commencer, hein, dans l'Aisne et dans l'Oise, hein, eh bien, vous voyez ici, hein, il y avait une bonne partie de l'Oise qui est en blanc, hein, sur la carte, et une partie de l'Aisne. C'était des zones qui n'ont pas la chance, hein, d'avoir des distributions dans les lycées tous les 3 ans, hein, comme ici sur Lens. Peut-être qu'en 30 ans, il y a eu au mieux une distribution, peut-être même jamais. Pourquoi ? Parce qu'on a des groupes qui ont une zone très très grande, hein, à couvrir et qui sont, parmi nos groupes du Nord, souvent parmi les plus faibles, hein, ceux qui ont le moins de membres. Eh bien, le Seigneur, hein, nous a donné cette vision, ces terres en friche, hein, et cette vision aussi de nous unir, hein, entre les 6 groupes Gédéon de la partie nord de la France. Et c'est ainsi que nous avons pu distribuer. Certains ont donné toute la semaine, d'autres ont donné qu'une journée, hein, une demi-journée. Hein, nous avons pu distribuer, si tu veux passer la suite, Julien, donc dans tous nos secteurs pratiquement, hein, de distribution. Hein, et c'est 12 000 Nouveaux Testaments, hein, qui ont pu être placés, distribués, hein, dans cette région. Hein, si tu veux passer la dernière. Et là aussi, nous avons vu, hein, les résultats de la prière, nous avons vu aussi l'aide des chrétiens. Le Seigneur nous a montré que nous ne sommes pas seuls. Il y a eu des beaux clins d'œil. Je vous donne 2 exemples. Château-Thierry, une chambre d'hôte. 2 Gédéons arrivent. Celle qui tenait cette chambre d'hôte, c'était une chrétienne, l'église de Château-Thierry. Évidemment qu'elle a pris, hein, les trilingues ou quadrilingues pour sa chambre d'hôte, bien sûr. Mais figurez-vous qu'elle était justement avec quelqu'un d'autre de l'Église en train de prier pour nous, parce qu'elle était au courant de la distribution. Et le Seigneur savait que la distribution qui allait suivre au lycée de Château-Thierry juste après allait être une distribution plutôt difficile. Elles étaient en train de prier pour nous. Avec un autre Gédéon, moi je fais le même jour une chambre d'hôte, enfin dans un château. On a eu du mal à voir la propriétaire. Finit par la voir, hein, et bon, elle accepte tout de même le Nouveau Testament, mais très très méfiante, hein, on sentait qu'elle était méfiante. Donc on lui apporte, on repart, et brutalement elle nous rappelle, et on voit qu'à côté d'elle, il y a une jeune dame avec un bébé. Et cette jeune dame était venue négocier pour retenir les salles, pour un mariage, et figurez-vous que c'était une chrétienne évangélique d'origine brésilienne. Et quand la propriétaire du château était rentrée, en disant, ben, j'ai dit, oui, hein, excusez-moi, madame, j'étais dérangé. Hein, il y a eu des messieurs qui sont passés, ont déposé des bibles. Bon, elle a montré qu'elle était encore un peu méfiante. La chrétienne brésilienne lui a dit, mais ça ne serait pas par hasard, les Gédéons? Et elle a commencé à la rassurer immédiatement. Hein, et du coup, elle nous a rappelé, on a pu encore témoigner auprès de cette dame. Le Seigneur nous encourage aussi. Hein, je ne peux pas résister à un petit mail que j'ai reçu. Je crois que c'était vendredi, il y a une semaine, tard le soir, un petit mail de Charlotte. Et Charlotte doit être d'une église de Douai, et après enquête, je crois qu'elle a dû recevoir un petit Nouveau Testament bleu à notre distribution du mois d'avril à la sortie du lycée Châtelet de Douai. Charlotte intitule son mail « Soyez bénis ». Et elle dit « Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 15 ans, je voudrais vous envoyer un message d'encouragement et de remerciement pour le don de vos Nouveaux Testaments. À mon lycée, votre arrivée a fait un bruit gigantesque et beaucoup de gens étaient outrés, surtout des professeurs qui ont trouvé votre geste déplacé. Je n'ai pas hésité à plaider votre cause. Aujourd'hui, j'ai encore eu l'occasion de me poster dans un couloir avec une amie pour lire votre petit Nouveau Testament. C'est également une occasion pour moi de témoigner directement de ma foi parce qu'il est pratique, transportable et surtout porteur de la meilleure des nouvelles. » Merci pour tout ce que vous faites. Bon, elle dit, je vous trouve très courageux. Bon, ça, on passe. Hein. Et même si vous êtes critiqué, je voudrais vous rassurer en vous disant que vous ne faites pas ça en vain et que des cœurs au lycée ont sincèrement été touchés. Soyez bénis. Hein, quel encouragement, vous voyez, de la part d'une jeune chrétienne qui, elle-même, vous l'avez entendu, n'hésite pas à témoigner. Et ça nous encourage à continuer à distribuer à la sortie des lycées, comme nous l'avons fait encore lundi dernier, à la sortie du lycée Pasteur d'Hénin, qui doit être l'ancien lycée de Daniel, 309 Nouveau Testament. On a distribué dans pas mal de lycées de Lens, je pense que vous êtes informés. Cette année, on a pu aussi distribuer pas mal à la sortie des concours de première année de médecine à l'espace Gaillan de Douai. Il y a eu plus de 800 Nouveaux Testaments qui ont été distribués et dans trois à la sortie aussi des concours d'école d'infirmières sur Douai, sur Saint-Venant et sur Béthune. On a pu également distribuer. Quand nous nous sentons tout petits et bien faibles face à une charge redoutable à accomplir, face à des géants, eh bien Dieu nous donne la force et la hardiesse. Est-ce que vous connaissez ce personnage que Julien va... Werner von Braun. Certains connaissent, d'autres peut-être pas. Le docteur von Braun, c'est un ingénieur allemand qui a été le grand spécialiste pendant la Deuxième Guerre mondiale des V1 et des V2. Si vous allez à la coupole Delphos, vous allez voir, on parle de lui. Et puis, donc, il a été récupéré par les Américains à partir de la défaite allemande, et il s'est retrouvé à la tête du projet Saturn, qui est le super vaisseau spatial qui allait propulser les Américains sur la Lune. Donc, il s'est retrouvé dans le sud des États-Unis. C'est un homme important, dont le nom est entré dans l'histoire. Bon, mais c'est un homme qui était orgueilleux, fier, ambitieux, politiquement douteux, puisqu'il a tout de même travaillé à fond avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un homme carriériste, opportuniste, sûr de ses compétences et pas très sympathique. Je suis historien, je me permets d'en parler. Pas très sympathique a priori. Et voilà qu'à l'automne 1962, il y a un simple Gédéon de l'Alabama qui fait comme moi ce matin dans une petite église une information Gédéon. Et le vendredi suivant, il est recontacté par une dame qui était la secrétaire de Werner von Braun, qui était au culte ce dimanche-là, qui avait été touchée par quelque chose dans ce qu'il avait pu dire. Et elle lui explique que le docteur von Braun il a plein de problèmes en ce moment, d'ordre administratif et personnel, il n'arrive pas à les résoudre. Et elle demande si ce Gédéon peut aller rencontrer Werner von Braun. Rendez-vous est pris. Et là, simple Gédéon est chrétien, il n'a pas reculé, il n'a pas trouvé de prétexte pour refuser d'y aller, alors que pourtant, moi, si vous m'annonciez ça, je serais quand même un petit peu dans mes petits souliers, d'aller rencontrer quelqu'un d'important. Et le lendemain, donc, à 3h de l'après-midi, il y va, Et il voit tout de suite, dès qu'il rentre dans la pièce, hein, que le docteur von Braun avait l'air perturbé, hein, et il lui demande ce qui n'allait pas, et le docteur von Braun lui répond qu'il a trop de problèmes pour pouvoir les compter. Alors, cet homme demande à Werner von Braun s'il a jamais demandé un jour la sagesse à Dieu. Von Braun lui répond, bon, non, moi, je peux régler mes problèmes tout seul. Hein, mais ce Gédéon lui répond que quand il est entré, bah, l'expression du visage de von Braun montrait bien qu'il avait des problèmes qu'il n'arrivait pas à résoudre tout seul. Alors il tire un petit Nouveau Testament de sa poche et il cherche Jacques 1, 5 et il lit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement. » Il faut oser dire ça, hein, à un grand de ce monde. Et il dit qu'il la demande avec foi sans douter. Bon, le docteur von Braun dit qu'il n'a jamais rien demandé à Dieu. Et le Gédéon lui dit, est-ce que vous voulez connaître celui qui a la réponse à tous les problèmes? Von Braun lui dit, est-ce que c'est possible? Et répond, certainement vous le pouvez. Et là, il a pris avec lui le plan du salut, jusqu'au moment où il a pu prier avec Werner von Braun, qui a ouvert son cœur, qui a ouvert la porte à Dieu. Et quand ils ont relevé la tête après avoir prié, von Braun a dit, mais que Dieu soit loué de m'avoir reçu, un grand fardeau a été enlevé de mon cœur. À partir de ce jour-là, la vie transformée de von Braun a raconté l'histoire de sa conversion plus fort que ne pouvaient le faire les mots, et ça jusqu'à son décès en 1977, à l'âge de 65 ans. Vous voyez ? Par rapport aux oppositions aussi, on a un Dieu, j'ai dit, de tous les possibles. Nous pouvons vivre un temps de toutes les opportunités, de tous les possibles. Secteur des hôtels, je ne me cache pas que même si le Seigneur nous a bien bénis cette semaine en faisant une tournée ici dans la région, plus que nous l'espérait, on a pu placer plus de, je crois, 110 Nouveaux Testaments trilingues, mais ce n'est pas tous les jours. Eh bien, c'est un secteur qui a tendance à se refermer au niveau français, peut-être même mondial. Mais le Seigneur nous a donné la vision des chambres d'hôtes et des gîtes. Deux couples, un sur l'île et un ici dans notre groupe de Lens, ont eu à cœur de faire ça. Ben, pratiquement toutes les chambres d'hôtes ici de la zone du groupe de Lens ont été faites. On découvre sans arrêt d'autres. Et puis, ce n'est pas toujours facile de voir les propriétaires parce que souvent, ils sont absents. Ben, sachez que sur les chambres d'hôtes qu'on fait actuellement, il y a plus de 50% de oui, 25% de non, et 25% restant, c'est là où on doit repasser. Gloire à Dieu, il y a des portes qui se ferment, il y a des fenêtres qui s'ouvrent ou qui s'entrouvent. Au niveau de nos distributions scolaires, on avait un petit peu peur de l'état d'urgence. Le Seigneur, au contraire, fait que le cœur des gens est plus troublé qu'avant et il y a une meilleure acceptation de notre Nouveau Testament. Au lycée d'Arras de Liévin, il y avait un colosse là, qui s'avance vers nous. On le voit arriver, on se dit, oh là, qu'est-ce que c'est ce qu'on va prendre ici hein? Un géant là, qui arrive. Ce géant, figurez-vous, loin de nous en guirlander, il dit, j'ai une de mes filles que je suis venu chercher, qui a pris un Nouveau Testament. J'ai encore deux filles de 18 et 21 ans qui en ont bien besoin et venez nous chercher, gloire à Dieu, deux Nouveaux Testaments. Seigneur nous protège pendant cette opération dans l'Oise. Figurez-vous que les Gédéons avaient à peine fini de distribuer dans un grand lycée de Clermont-de-Loise, et ils l'ont vu sur le parking du lycée, il y a eu une bagarre qui a éclaté entre des gangs de lycéens, tel point que la police a dû arriver et a dû charger. Notre distribution était terminée, gloire à Dieu, la protection du Seigneur était là. J'ai dit qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent de façon étonnante. En France, parfois, il y a des fenêtres qui s'ouvrent dans l'enseignement privé, avec des évêques qui ouvrent maintenant largement leurs portes aux Gédéons pour qu'on puisse distribuer à l'intérieur des lycées et des écoles. C'est beaucoup mieux parfois, classe par classe. Ça permet vraiment d'apporter une parole supplémentaire de témoignage. Priez pour que les évêques de Lille et d'Arras sont encore un peu durs d'oreille. Donc priez pour que, ici dans notre région, les portes s'ouvrent à leur tour. Nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Virginie vous a sûrement parlé l'an dernier du début d'ouverture dans les maisons de retraite, un autre secteur que le Seigneur nous a mis à cœur. Moi, si vous m'en aviez parlé il y a 2 ans, je vous aurais dit, oh là, ça va être difficile. Il y en a beaucoup qui sont publics, on va nous opposer des noms, des municipalités, etc. etc. Bon. On y va soit avec des chorales gospel, soit le plus souvent des couples, un ministère de couples, trois couples ici dans notre groupe qui en font. Et on propose pour Noël, pour Pâques, de mettre ça dans un petit paquet cadeau, Nouveau Testament grand format avec psaume, comme celui-là, et elles vont voir les directions. Eh bien, quand je regarde les résultats aujourd'hui, je suis absolument émerveillé. Rien que sur la zone du groupe de Lens, il y a eu 113 maisons de retraite prospectées. 80 ont accepté, je crois qu'on arrive à un taux de 70%, accepté intégralement ou partiellement. Et c'est quasiment 2000 Nouveaux Testaments qui ont pu être placés, soit aux personnes âgées, qui sont souvent dans les craintes, les souffrances, qui ont peur de la mort, il y a des gros besoins dans ce secteur, soit auprès du personnel soignant. Gloire à Dieu pour cette ouverture. Opposition pourrait venir aussi des musulmans. En lycée. À Creil, par exemple, on a distribué, il y avait des lycées, c'était plus de la moitié, les trois quarts des élèves étaient d'origine musulmane, presque, on les appelle le plateau. Là. À Creil, il n'y a pas eu de problème. Et moi, je me rends compte que de plus en plus, on reçoit de nombreux témoignages dans notre région et aussi en France, de musulmans qui sont touchés par un contact avec la parole de Dieu que nous distribuons. C'est un petit missionnaire discret qui pénètre dans des milieux où c'est parfois interdit de lire la parole. Et là, je voudrais vous raconter le témoignage de Salem. Salem, il est né en Kabylie. À l'âge de 19 ans, il est arrivé en France, s'est marié, a fondé une famille. Il était évidemment musulman. Il allait à la mosquée régulièrement et il vivait dans la région de Condé sur l'Escaut, près de Valenciennes. Un jour, il a eu un grave accident au boulot. Il a failli perdre la vie sur son lieu de travail et donc il a dû connaître plusieurs mois de traitement, de rééducation, d'où le fait qu'il va aller chez le kiné. Il est tombé avec cette épreuve dans une profonde dépression parce que dorénavant, il avait peur de la mort. Et puis il commençait en même temps à comprendre que dans sa religion, il n'y avait pas d'assurance du salut. Que dans le Coran qu'il lisait régulièrement, il y avait beaucoup de contradictions, que ce n'était pas forcément une religion de paix et d'amour. Bref, Salem s'est retrouvé dans un besoin spirituel. Et un jour, dans la salle d'attente de son kiné, il est tombé sur ce Nouveau Testament grand format qui avait été placé par une épouse du groupe de Valenciennes. Et curieux, soucieux de vérité, il a commencé à lire ce Nouveau Testament. Et là, il a découvert. Il a découvert Jésus avant tout, un Dieu d'amour. Il a découvert un Jésus qui, dit-il, était bien plus qu'un simple prophète. Et il a décidé d'entrer en contact avec le pasteur de la seule église évangélique de Condé-sur-l'Escaut. C'est pas difficile. Il est allé lui-même chez lui. Et là, le pasteur a pu lui présenter le plan du salut. Et Salem a donné sa vie au Seigneur. S'est fait baptiser. Aujourd'hui, il témoigne. Il dit, je témoigne, je raconte comment Dieu m'a délivré de ma dépression, comment il m'a sauvé, bien sûr, il m'a fait expérimenter un Dieu d'amour et comment il m'a aussi libéré de certains mensonges qui me liaient et qui étaient liés à ma religion d'origine. Dieu est aussi un Dieu qui répond de façon fantastique aux problèmes des gens, parfois au laser. Je vais vous raconter ici l'histoire de cette jeune fille de Charleroi, 17 ans. Elle était dans les problèmes parce que sa famille s'était adonnée à l'occultisme. Et elle dit, vous ne pouvez pas savoir ce que l'occultisme fait dans une famille. Ma famille, c'était une famille maintenant où il y avait de la haine partout. C'est la loi du plus fort, de la méchanceté. C'était infernal à la maison. Et quand je racontais ça à mes copines, elles refusaient de me croire parce qu'extérieurement, elles ne voyaient rien. Et pourtant, pour moi, c'était absolument infernal. Et elle dit, c'est à ce moment-là que j'ai crié à Dieu, mais je ne savais pas comment le trouver. Mais je pensais qu'il était ma toute dernière chance et elle voulait le trouver par elle-même. Elle était dans un grand besoin. Alors, un dimanche après-midi, alors qu'elle marchait dans la rue à Charleroi, qu'elle priait dans son cœur, elle était stoppée parce qu'elle s'est retournée et elle a vu un temple, peut-être une église évangélique ou un temple protestant, sur lequel était marqué « Dieu est amour ». Et elle, qui vivait la haine chaque jour, elle a dit « c'est exactement l'inverse de ce que je vis, ça ». Il y avait les chrétiens qui rentrait dans le temple pour aller au culte ou à une réunion, mais elle dit, là, cette fois-là, ben, je n'ai pas fait la démarche d'y entrer. Mais, en même temps, elle a demandé à Dieu de lui procurer une Bible, hein, croyant qu'elle pourrait peut-être trouver Dieu toute seule. Hein, et en plus, elle était exigeante, cette jeune fille, elle a demandé une Bible petite, hein, petit format. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle dit, si je ramène ça chez moi, ce n'est pas possible, on va me la confisquer tout de suite. Donc, il faut que je puisse la cacher dans le banc de son école. Ben, figurez-vous qu'elle avait à peine demandé ça, que le matin, hein, eh bien, à la sortie de son... C'est une énorme cité scolaire et en même temps un peu université, hein, l'UTB de Charleroi, hein, il y avait un homme, un Gédéon, qui distribuait, hein, des Nouveaux Testaments. Dieu l'avait forcément entendu. Hein, c'était une réponse au laser à sa prière. Il avait vu ses problèmes, hein, les urgences. Et elle a commencé à le lire au lycée. Hein, bon, ceux qui ont été profs savent qu'on n'aime pas trop, hein, piquer un élève en train de faire autre chose que ce qui est enseigné. Hein. Eh bien, elle priait pour que personne ne s'en rende compte. Hein, et elle lisait cette parole, elle était affaiblie, mais elle dit « cette lecture me redonnait la vie ». Et deux mois plus tard, là, elle a eu le courage d'aller frapper à la porte de cette église. Hein, et là, elle a pu donner sa vie à Dieu. Hein, et aujourd'hui, c'est une chrétienne active, hein, dans la région de Mons, hein, chez nos voisins belges. Alors, vous êtes partenaires, hein, nous sommes partenaires. Continuez à nous soutenir. Hein, vous savez comment, hein, par un travail, comme Charlotte, d'explication, hein, par un travail de réclamation dans les hôtels, hein, dans les cliniques, hein, pour qu'il y ait des Nouveaux Testaments, hein, de félicitations, hein, si vous en trouvez. Vous pouvez surtout nous aider par la prière. Hein, et je vous donne des sujets de prière, je les répète, l'enseignement privé, hein, des ouvertures, hein, plus de membres peut-être aussi pour le groupe Gédéon de Lens. Hein, nous sommes un groupe, je veux dire, gloire à Dieu, il marche bien, mais nous ne sommes pas très nombreux, hein, et on vieillit. Moi, je suis venu Gédéon à 25 ans, j'en ai 62 maintenant. Hein, donc, il faut assurer les relèves. Hein, priez aussi, hein, pour les aumôneries des prisons, hein, parce que dans la région, enfin dans notre zone, à part maintenant peut-être la prison d'Arras et celle de Béthune, hein, il y a encore les prisons de Douai, de Bapaume et de Vendin-le-Vieil qui, je crois, n'ont pas d'aumôniers protestants. Hein, et comme nous, nous n'avons plus l'autorisation, hein, d'y aller par nous-mêmes, hein, eh bien, c'est un des gros sujets de prière, ça. Hein, parce que dans les prisons, le Seigneur, j'ai pas eu le temps de raconter un témoignage, la prison de Longnes, mais le Seigneur, il peut agir aussi, hein, par ses petits Nouveaux Testaments, hein, avec les aumôniers aussi qui, hein, voient ces prisonniers. Continuez à nous aider aussi, hein, financièrement, vous le faites et je vous en remercie. Et là, je voudrais dire simplement un petit mot, parce que vous êtes une des rares églises de la région, hein, grâce à Michel, à avoir un présentoir donc, de cartes Gédéon. Hein, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est, hein, c'est pas facile. Alors, dans certaines circonstances, vous voyez, anniversaire... Non, tu vas trop vite là, Julien. Dans certaines circonstances, donc, anniversaire, remerciement, vœux ou circonstances plus douloureuses, hein, des condoléances... Eh bien, il vous est possible, hein, de prendre une carte à votre comptoir de librairie, hein, et de l'envoyer à la famille ou à la personne que vous voulez honorer. Hein, et en faisant cela, hein, slide suivant. Hein, donc, en faisant cela, hein, eh bien, continue. Hein, eh bien, vous permettez, hein, au Gédéon de financer les Nouveaux Testaments que nous distribuons par un cadeau qui se perpétue et qui peut remplacer des fleurs, hein, parfois des fleurs périssables. Hein, et donc, la famille, hein, que vous honorez est informée, hein, que vous avez fait un geste, que vous avez fait un cadeau. Alors, si vous prenez une carte, hein, sur le présentoir, hein, bon, je dirais le minimum, c'est à peu près 2,5 €, hein, parce que ça finance en gros les petits bleus, les trilingues, hein, et bon, ça permet un peu plus, hein, que le financement. Ça peut être aussi, évidemment, un multiple, hein, si vous voulez l'équivalent de fleurs, hein, évidemment, 2,5 €, ce sera une rose, hein, simplement. si vous voulez offrir plus, hein, vous pouvez faire un multiple, hein, de cette somme. Alors, je voudrais terminer, je vois que le temps file, hein, je voudrais terminer, hein, en rappelant cela, hein, ce qu'on a vu ce matin, hein, que nous, hein, nous voyons souvent et d'abord les problèmes, Jésus voit d'abord les besoins. Alors, demandons à Dieu, hein, nous aider à quitter un état d'esprit que nous avons, je répète, trop souvent, que j'ai trop souvent, qui change notre vision, parce que la bonne terre est là. Et je voudrais terminer avec un dernier petit témoignage qui a été rapporté par le groupe de Dunkerque lors d'une visite d'église. Un jour, et là je vous emmène du côté de la digue de Malo par un jour de très beau temps comme aujourd'hui. Un jour, Eddy, qui est un chrétien, un membre d'une église de Dunkerque, la région dunkerquoise, a été ému de compassion par un SDF qu'il a rencontré sur la digue de Dunkerque. Il lui a donné une petite pièce, lui a offert à boire, et ils ont discuté pendant 2 heures, ou plutôt Eddy a écouté le SDF, qui s'appelait Jean-Jacques, pendant 2 heures. Il a pris le temps de le faire. Eddy avait reçu un petit Nouveau Testament Gédéon. Et le lendemain, il a eu à cœur de retourner voir le SDF et lui a donné son petit bleu. Et Jean-Jacques, il a été ému aux larmes de voir que l'on s'intéressait à lui, d'autant plus qu'il lui a confié que ce jour-là, il avait justement prévu de se jeter dans le canal. Il avait été bien inspiré par le Saint-Esprit, Eddy. Et Eddy, donc, ensuite, a parlé de Jean-Jacques à sa communauté. Et ils en ont fait un sujet de prière. Et quelques temps plus tard, les chrétiens de cette église, ils ont eu une réunion, la digue de Dunkerque, pour ceux qui connaissent, c'est un lieu de détente des Dunkerquois, c'est un lieu de promenade. Les chrétiens de cette église s'entretenaient de ce qu'ils avaient vécu pendant la journée sur la digue. Et Jean-Jacques, comme il était SDF sur la digue, il avait une oreille qui traînait toujours un peu partout. Et il a entendu parler de ça et il s'est approché d'eux en disant « Écoutez, moi aussi je connais Dieu ». Et il a montré son Nouveau Testament, Gédéon. Alors les chrétiens ont été surpris, ils ont dit « Ils ont dit, mais au fait, Jean-Jacques, c'est toi ? » Alors, le plus surpris, ça a été finalement Jean-Jacques, le SDF, parce qu'il a dit, comment ça se fait ? Vous me connaissez ? Comment ça se fait que vous connaissez mon nom ? Les chrétiens lui ont expliqué qu'ils priaient à leur église pour un SDF sur la digue de Dunkerque, qui avait reçu un Nouveau Testament Gédéon. Donc, par déduction, c'était peut-être lui qui s'appelait Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, profondément touché, a été emmené les jours suivants dans cette église, il a donné son cœur à Dieu. Aujourd'hui, Jean-Jacques est décédé, mais Eddy sait qu'il était sauvé. Eddy, ému de compassion, avait su voir les besoins, avait su prendre de son temps, avait su donner sans savoir qu'il y avait autant d'urgence. Il avait fait passer le message d'amour de Dieu aux hommes. Quel encouragement, quel bel exemple, quelle incitation pour les Gédéons, pour moi d'abord, mais je pense aussi pour chacun d'entre nous. Alors, encore un grand merci, chers frères et sœurs, pour votre accueil, pour votre attention et je dirais encore plus pour votre fidèle soutien, parce que je le répète, nous le sentons quand les églises nous soutiennent. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci Paul-Louis. Nous sommes toujours sensibles, Seigneur, à entendre